Nous sommes le jeudi 11 septembre, il est 21h et des poussières sur Radio Canu 102.2. Bienvenue dans le nerf de la game. Le nerf de la game, l'émission qui aborde le monde du jeu vidéo par sa face alternative. Chaque semaine ou presque, vous retrouverez ici un cocktail d'actu sur les rouages de l'industrie du jeu vidéo et sur les titres qui attisent la curiosité, surtout du côté indépendant du paysage vidéoludique. Comme chaque semaine, bonsoir Romain.
Salut Xavier.
Comment vas-tu ?
Ça va et toi ?
Ça va, ça va. Romain, qui, quand il ne réalise pas cette émission, stream très régulièrement sur Twitch, sur sa chaîne Ruvon avec underscore. Et des fois, en fait, il essaye de faire rivaliser les gens pour savoir s'ils ont une wishlist plus grande que la sienne.
Ça n'existe pas. Je vous attends. Venez.
Toujours très content de te retrouver, en tout cas. Nous sommes aussi avec Bettina. Bonsoir Bettina.
Bonsoir.
Comment vas-tu ?
Ça va, ça va. Et toi ?
Eh ben, ça va bien. Je te remercie Bettina qui, quand elle ne navigue pas autour d'Annecy, est instigatrice de l'événement Indie Game Lyon et, comme d'habitude, par sa seule présence, le rend cette émission écoutable, tout simplement.
Plus crédible, déjà.
Plus crédible. Voilà. Et vu que je ne l'ai pas dit, bon anniversaire à toi.
Oh, merci.
Oh, bon anniversaire.
Bon anniversaire. Et allez.
Bah écoute, on n'est pas au courant. On ne nous prépare pas, nous. On nous balance des trucs comme ça.
C'était la semaine dernière.
Bien. Bah écoute, ça fait plaisir.
Merci beaucoup.
Nous sommes aussi avec Julien. Salut Julien.
Bonjour Xavier.
Comment vas-tu ?
Mais écoute, ça va. J'apprécie le fait que vous ayez enfin décidé de relever le niveau.
Julien, qui est donc le principal moteur du collectif Presse F5, collectif qui stream du JV majoritairement indépendant, produit des podcasts et publie sur son site des tests et des bafouilles sur le jeu vidéo, ainsi que des articles de fond. Julien, qui est actuellement terrorisé parce qu'il a peur que je dise des horreurs sur son compte alors que je ne suis que paix et amour.
Et surtout, t'as oublié de dire que c'est quand même lui qui héberge les replays de cette émission.
J'allais le dire, mais bon, en même temps...
Non. Fais pas genre, t'avais complètement oublié.
Il y a toujours une belle synergie entre vous, c'est incroyable.
Ça fait toujours. Les gens qui viennent, ils sont toujours heureux d'être là.
Voilà. Parce que c'est pas eux qui prennent.
C'est ça. Julien, qui était tellement terrorisé qu'il a amené un copain.
Bonsoir.
Salut Simon, comment vas-tu ?
Ça va très bien. Ravi d'être là.
Eh ben, ravi aussi, Simon, qui va assister en réalisation, Romain, pour ce soir.
C'est une question aussi d'espace disponible. Mais
ça va, on a de la place, on est bien.
Ouais, carrément.
En tout cas, j'espère que tu es à l'aise. On est parti pour une heure où on va parler globalement de jeux vidéo et de l'industrie du jeu vidéo. Qu'est-ce qu'il y a au sommaire cette semaine ? On va parler du rapport annuel de Newzoo. Donc, c'est un rapport sur l'état du marché du jeu vidéo dans le monde et qui vient tout juste d'être publié, là, début septembre. On va parler un peu du nombre de joueurs de jeux vidéo, de la répartition selon les plateformes, de l'influence des dates de sortie, de la durée notamment des périodes d'early access sur les jeux et d'autres choses qui ont été mises dans ce rapport. Mais d'abord, on va faire le tour des news récentes des gens qui fabriquent des jeux vidéo sur Lyon et ses alentours. Bettina, je te laisse la main.
Oui, alors deux petites news que j'ai envie de vous partager. La première, c'est la sortie du jeu Crankstone, qui est donc sorti sur Playdate, je bafouille. Est-ce que vous connaissez la Playdate ?
La petite machine avec une manivelle ?
Exactement. Je vais quand même présenter la console pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est une toute petite console portable avec une croix directionnelle, deux boutons d'action et une petite manivelle sur le côté. Donc cette manivelle est une manette analogique en fait qui se déplie sur le côté et qui permet de régler précisément une action comme par exemple se déplacer d'avant en arrière. Tous les jeux ne l'utilisent pas mais certains le font vraiment donc c'est assez rigolo. Et donc la console elle est livrée avec une saison offerte de 24 jeux qui correspond en fait à la saison 1, c'est un système de saison. Il y a une saison 2 qui est finie ou en cours, je ne sais pas exactement. Il y a 12 jeux je crois pour l'instant. Et donc, elle possède un écran noir et blanc non rétro-éclairé, mais ultra réfléchissant. C'est vraiment une console très rétro, dans une vibe très très rétro gaming. Elle est à un prix de $229, sans les taxes et les frais de port. Donc voilà, c'était pour vous présenter un petit peu la console, mais un petit mot maintenant sur le jeu Crankstone, donc, qui est sorti sur cette petite console portable. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur itch.io à propos de ce jeu, mais je vais quand même vous en parler un petit peu. C'est un gallery shooter dans un univers de Far West, où chaque niveau est ponctué de mini-jeux un peu comme un WarioWare. Certains mini-jeux utilisent cette fameuse manivelle pour viser, par exemple, et d'autres utilisent le microphone, apparemment, de ce que j'ai lu sur la page Itch. C'est signé Lugludum, ou Lugludum, je ne sais pas comment on le prononce.
Un lyonnais.
Un tout petit studio qui est en fait le studio de Ludovic Ba, qui a déjà sorti un jeu sur Playdate, justement, et il a notamment travaillé avec MEB pour les graphismes. Voilà.
Est-ce que ces jeux sont disponibles également sur PC, comme tu as parlé de Itch.io ?
Non.
Non, d'accord.
Non, non, c'est vraiment uniquement pour la petite console.
Ouais, ils sont compilés spécifiquement pour ces jeux-là. Et moi, ma question, c'est est-ce qu'il y a des jeux Playdate qui sont achetables en dehors des saisons en question, en fait ?
Oui, bien sûr. C'est vrai que j'ai parlé de ce système de saisons, mais on peut tout à fait acheter des jeux comme sur n'importe quel store. Voilà, c'est pour ça qu'on peut notamment acheter Crankstone pour l'installer sur sa Playdate, si on le souhaite.
Ça marche. J'aimerais bien un jour essayer la Playdate parce qu'on n'en voit pas beaucoup sur tout ce côté de l'océan. C'est plutôt une console qu'on voit plus aux États-Unis.
Ouais.
Et au niveau de grandeur, parce que tu parles du prix de la console, mais les jeux en eux-mêmes, ils sont plutôt chers si on les achète à l'unité ou pas ?
Je me rappelle plus du prix, mais en fait, c'est très variable selon les jeux, il me semble, de ce que j'ai pu voir. Ça dépend de, ça dépend des jeux, ça dépend de la longueur du jeu, ça dépend de plein de choses. Mais c'est. Je pense pas que ça dépasse la vingtaine d'euros,
c'est du
mais
jeu indé, quoi.
Voilà, j'ai pas vérifié en tout cas, mais oui.
Merci.
En plus, c'est de ce que je vois, il y a des jeux à $8, il y a des jeux à 10. J'ai pas vu plus pour l'instant.
Ouais.
Sur le store.
Ok. Alors, en tout cas, moi, j'ai jamais touché la console, j'ai jamais joué non plus, j'ai pas testé Crankstone non plus, mais.
T'as jamais eu l'occasion finalement. Je reviens sur l'Indie Game Lyon. Il y a personne qui s'est déjà présenté avec un jeu Playdate.
Pas encore.
D'accord.
Pas encore, peut-être.
Un jour, peut-être.
Peut-être Ludovic bientôt, voilà. Et sinon, donc.
Ceci est un appel.
Deuxième petite news que j'avais envie de vous partager, c'est à propos du Queer Games Bundle. Alors malheureusement, il s'est terminé hier, donc j'arrive un peu tardivement. Mais je voulais quand même vous en parler puisque j'ai appris que dedans, il y avait plusieurs jeux des gens de la communauté des devs de Lyon. Donc je ne sais pas avec quel jeu ils ont participé précisément, j'ai voulu chercher moi-même, mais en fait il y avait énormément de jeux dans ce bundle. Il y avait 616 jeux pour $60. Donc il est sorti à l'occasion du mois des fiertés. Alors cette année il était un petit peu en retard, c'était la cinquième édition de ce game, Queer Games Bundle. Ça y est, je me perds dans mes notes. tous les fonds récoltés dans ce bundle sont répartis équitablement entre les contributeurs. Le Queer Games Bundle est pro-communautaire et anti-concurrence et s'efforce de travailler en dehors des limites restrictives de l'industrie du jeu. C'est ce qui est marqué sur la page du Queer Games Bundle. Ils donnent un petit peu des chiffres pour qu'on se donne un ordre d'idée. Par exemple, en 2021, ils ont généré près de $150,000 répartis équitablement entre près de 200 créateurs et créatrices. En 2022, c'était $215,000 répartis entre 400 créateurs et créatrices. En 2023, c'était $195,000 entre 250 personnes. Bref, le bundle a été fondé par deux développeurs qui s'appellent Taylor McHugh, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, et Nilsson Carroll, mais depuis ils ont été rejoints par d'autres personnes qui aident notamment à la sélection des jeux, puisque voilà, il y avait quand même plus de 600 jeux, il faut les choisir. Mais voilà, je voulais vous parler de cette petite initiative. Peut-être qu'un jour on reparlera des bundles et des bundles caritatifs aussi, qui est encore autre chose. Ça serait chouette à l'occasion.
On l'avait évoqué la semaine dernière, parce qu'on avait évoqué le bundle pour Gaza. qui est actuellement en cours sur itch.io, qui est toujours ouvert, normalement encore une dizaine de jours.
Qui est toujours ouvert, qui actuellement est malheureusement assez loin de leur objectif de 200 000 $, puisqu'ils sont à 67 000 $ collectés.
Ils étaient à 65 000 hier.
Qui est un tiers de leur objectif, qui pourtant est un bundle qui est très intéressant, parce que pour 8 $, vous avez quasiment 400 jeux, et notamment des jeux comme Coffee Talk, un jeu dont avait parlé Romain, qui était très intéressant aussi. Il y avait 2-3 jeux qui justifiaient à eux seuls en fait l'initiative.
Ok.
Et $ au Coffee Talk.
Ouais, déjà c'est rentabilisé.
Rien que ça.
Mais il y avait 2-3 trucs effectivement, et beaucoup de jeux de rôle également papier, enfin papier, numérique quoi.
Sur Itch, on retrouve beaucoup de ce qu'on appelle les tabletop RPG, les TTRPG, on en retrouve beaucoup dans ces bundles. C'était Lucifer Within Us, avais évoqué.
Que je conseillais en tout cas dans ce genre de cadre.
Moon Hunters.
Pas forcément à prix complet, mais dans un bundle comme ça, c'est vachement intéressant. Ouais.
En tout cas, voilà. Si jamais ça vous tente, non seulement c'est une bonne cause quoi, et vous en avez littéralement pour votre argent.
Ouais. Et c'est toujours disponible.
Et c'est toujours disponible pendant une dizaine de jours sur itch.io, Play for Peace, Games for Palestine 2025 Charity Bundle, et c'est, pour que vous soyez au courant, c'est encore disponible pendant 11 jours.
Merci Julien pour le rappel. Et merci Bettina pour les news. Et puis on va essayer de faire effectivement un truc sur tout ce qui est charity bundle et charity aussi
stream,
vu qu'il y avait les events le week-end dernier. Donc au moins en fait de parler de tout ça, de ce que ça amène, ce que ça amène comme communauté, ce que ça amène aussi comme engagement de manière générale.
Quel point ça se développe, quel type d'initiative s'organise autour de ça, autour du stream notamment.
Ouais. Mais pour
on
ça
en a
il
eu
faudra
quand même pas mal de différentes et avec des différents objectifs ces dernières années.
On avait fait une table ronde sur ce sujet l'année dernière à Indie Game Lyon. Voilà, j'ai perdu, j'ai encore parlé d'Indie Game Lyon.
21h17, il est tard. Petite forme. Passons au sujet principal de cette émission, qui est donc le rapport annuel Newzoo. Et c'est le moment où je vais lancer Romain sous le bus, vu que j'aimerais
direct.
Bien... Ah oui, complètement.
Ah, c'est pour moi, gueule d'entrée.
Parce que j'aimerais bien, en fait, que tu nous dises c'est quoi juste Newzoo. Qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Pourquoi ils font ça?
C'est pas un bus. Alors, là qui t'a envoyé.
Ah ouais, non, c'est des Airbus.
Voilà, c'est ça. Et après j'enchaînerai sur des chiffres, au moins les chiffres de nombre de joueurs et de répartition.
Ok, alors je vais ressortir mes souvenirs de l'année dernière, quand on avait présenté ce rapport la première fois, je crois.
Oui.
C'est donc une entreprise, clairement une entreprise data analyst qui est basée aux Pays-Bas.
Oui.
Et qui donc de façon très très régulière, ils ont des rapports annuels, mais ils ont aussi des rapports trimestriels, beaucoup plus circonstanciés aussi des fois, sur des thèmes, sur des sujets plus précis, sur des événements. Et donc voilà, ils analysent globalement le jeu vidéo, les chiffres de vente, les chiffres d'activité parfois aussi autour notamment, comme on le disait, sur certains événements, le nombre de viewers, le nombre de ce genre de choses. Et ils font un petit peu des statistiques annuelles sur les jeux les plus utilisés, enfin les plus joués, les jeux qui rapportent le plus, qui ne sont pas toujours les jeux les plus joués, en fonction de comment est-ce que c'est des jeux free-to-play, etc., comment ça peut se goupiller, mais ils font effectivement beaucoup de... Ils récoltent énormément de données auprès des éditeurs directement.
Oui.
Ils ont vraiment des informations qui viennent la grande majorité du temps directement des pourvoyeurs de chiffres. En fait, ils ne sortent pas les chiffres de nulle part. C'est vrai que le nom, comme on l'avait fait remarquer la dernière fois, est un petit peu...
étonnant.
Un petit peu étonnant. Il fait, en tout cas, en français, Newzoo, ça ne donne pas l'impression de quelque chose de sérieux.
Oui.
Mais au final, c'est une structure qui fait ça depuis assez longtemps maintenant.
C'est un des organismes, en tout cas, les plus sérieux à faire ça depuis un certain temps.
Je dirais au moins depuis 2019.
Et surtout, en fait, le pourquoi ils font ça, c'est parce qu'en fait, ils vendent leur business étant de faire de l'analyse stratégique et de vendre justement leur stratégie, leur capacité de stratégie à différentes grandes entreprises.
Que ce soit les indés ou les AA,
pour leur donner des conseils sur ce qu'il faut mettre dans leur jeu, sur comment les, sur quoi les sortir, quand les sortir, ouais. dans quelle stratégie de diffusion, etc. etc.
Bah,
en fait, c'est ça,
état...
c'est ça qu'ils vendent. C'est pour ça qu'ils... Ouais. Et en gros, c'est une gigantesque aussi pub pour eux.
Cet énorme rapport annuel voilà. est une vitrine pour eux, bien évidemment, ce qui va être repris absolument partout. Si vous regardez un petit peu sur tous les sites un petit peu connus, les PC Gamer, les Eurogamer, etc., les GameIndustry.biz, tous ces sites vont reprendre ce rapport, souvent en faisant plusieurs articles. Oui. Parce que le rapport fait 60 pages dans ces eaux-là. Et donc, ils ont énormément de sujets différents qui sont abordés. Donc, voilà, les articles vont reprendre chacun des morceaux et en tirer des conclusions. En tirer des, voilà, c'est... Globalement, c'est un peu comme tu disais, c'est leur business, c'est de prendre ces chiffres, de récolter ces chiffres et d'en tirer, un état des lieux à ce moment-là pour en conseiller des directions à prendre, des décisions à prendre.
C'est ça. C'est pour ça que, en tout cas, dans cette émission, on fera la différence entre, d'un côté, les chiffres qui sont donnés et les analyses qui peuvent être faites par Newzoo, qui sont deux choses différentes. À titre personnel, là, en tout cas, sur la partie dont je vais parler, ça va être, je vais uniquement me baser sur les chiffres qui sont donnés et pas sur les conclusions qu'ils en donnent à base de aller plutôt vers telle ou telle plateforme ou aller faire tel ou tel truc. Ça, c'est...
Parce que tu n'es pas d'accord avec les conclusions ?
Il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord avec les conclusions, mais surtout, il y a des choses, je pense, c'est plus intéressant qu'on en discute plutôt que de prendre leur avis à eux.
Oui, de faire un copier-coller de ce qu'ils ont déjà écrit.
Sachant que je pense, en fait, voilà, avec ces chiffres-là, on est capable, je pense, d'avoir une analyse qui peut-être arrivera à la même conclusion qu'eux.
Mais qui sera intéressante, en tout cas, à développer entre nous. Ouais.
C'est ça. Tout d'abord, des joueurs, il y en a plein.
Et des joueuses aussi.
Des joueurs et des joueuses, il y en a plein, vu qu'il y a environ 3,6 milliards de personnes qui joueraient à des jeux vidéo en 2025. C'est donc 61,5% de la population mondiale. Donc c'est beaucoup, 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 beaucoup.
Est-ce que c'est plus, moins qu'avant ?
C'est plus qu'avant. Alors, c'est 4,4% de plus.
Okay. Entre 2024 et 2025
Entre 2024 et 2025.
D'accord.
Mais sachant que quand ils disent 2024, quand ils disent 2025...
C'est des études de...
Voilà. Il ne faut pas oublier que ce sont des études statistiques. C'est-à-dire qu'ils donnent les chiffres de 2025 sur la prévision des chiffres qu'ils ont à la moitié de l'année. Selon des modèles statistiques. Donc ça aussi, c'est des choses importantes à prendre en compte. Si on parle en termes de répartition, ils ont réparti en fait en trois grands groupes. Le mobile, le PC et les consoles.
Okay.
En termes de répartition sur le nombre de personnes équipées. Les consoles, c'est 18% des joueurs et des joueuses.
D'accord.
C'est tout.
Environ 645 millions de personnes.
Attends, bras sur self.
C'est déjà quelque chose.
Mais
si les mecs ils ont envie de s'énerver un peu, ils peuvent faire des trucs quand même.
Mais là où tu dis c'est 18% des équipements, mais en termes de revenus sur tout ce qui a été rapporté, tout ce que la jeu vidéo a rapporté dans le monde, c'est 25%.
D'accord.
25% du pognon.
Donc c'est pas du 1 pour 1 quoi.
Voilà. À l'inverse en fait sur PC, tu as un PC qui représente environ 26% des joueurs et des joueuses, mais qui ne rapporte que 20 à 21% des revenus.
D'accord.
En gros, pourquoi
c'est à cause des pirates?
Non, alors pour être l'analyse en fait elle est pas mise de façon extrêmement précise, mais clairement en fait ce que ça dit c'est que sur console c'est plus facile de maximiser ses profits pour un éditeur que sur PC parce que les jeux sont vendus moins cher
sur PC.
Sur PC, oui.
Oui, oui,
sur PC, pardon, les jeux sont vendus moins cher, donc forcément il y a un gain qui est moindre, tout simplement. Et puis surtout que avec des deals qui sont de l'exclusivité, des marges qui sont supérieures sur les stores, qui sont supérieures potentiellement sur les stores, vu qu'en fait sur PC il y a une concurrence entre les différents stores. Sur PC, tu peux dire j'ai un PC, mais j'y joue en fait sur Game Pass, ou j'ai un PC, je joue sur Steam, j'ai un PC, je joue sur GOG, j'ai un PC, je joue sur Epic, qui êtes-vous ? Enfin voilà.
On salue Tim.
Globalement, en fait, tu as une marge qui sera inférieure à si, bonjour, je vends sur PlayStation 5, je sais combien ça me rapporte, et c'est calé. Tu vois ce que je veux dire ?
Même sans parler de la variété des plateformes, t'as aussi la quantité, l'offre sur PC. Enfin, je veux dire, t'as une concurrence qui est beaucoup plus folle que sur console où t'as un nombre de titres qui sort qui doit être moindre, je suppose.
Oui, mais ça pourrait, mais on pourrait très bien dire que vu qu'il y a plus de variété, ça rapporte plus d'argent parce qu'il y a plus de gens, parce qu'il y a plus de PC. Mmh. Il y avait genre même beaucoup plus de PC que de consoles. Donc tu pourras dire ça, mais en fait il y a juste surtout un public qui est éduqué différemment. Et il y a un truc qui est très très important, c'est que le nombre de joueurs qui veulent qui payent pour les jeux, c'est environ la moitié des gens qui jouent.
C'est ce que je disais.
Un peu moins de la moitié des gens.
C'est ce que je disais, les pirates. Pardon.
Bah, c'est pour faire simple, tout ce qui est free to play, c'est beaucoup plus sur PC et sur mobile que sur console, de manière générale.
Ok.
Donc c'est ce qui fait que en gros, alors attention hein, sur les free to play, ça rapporte aussi beaucoup d'argent.
Mais pas de la même façon.
Selon les modèles, achats, ouais. Mais ça imprime de l'argent différemment, on va dire. Un truc aussi qui est très important, c'est que là je parlais surtout de consoles et de PC. La plateforme la plus lucrative, celle qui rapporte le plus d'argent, c'est bien évidemment le mobile.
Bien sûr.
Le mobile.
Du coup, qui doit être beaucoup plus représenté, enfin beaucoup plus présent.
Oui.
Bah, en fait, c'est.
Si je prends les chiffres que tu as laissés pour l'instant, il reste plus de la moitié.
Voilà, bah déjà, en fait, c'est 55% des revenus du secteur.
Ok.
Voilà. Et c'est environ des revenus estimés à 103 milliards.
Ça va.
Voilà. Et tranquille. En fait, c'est des chiffres qui sont au final peu étonnants quand on se souvient notamment de choses dont on a parlé cette année dans cette émission. Quand on se souvient notamment la somme consentie par Savvy Group, qui appartient donc au prince Ben Salman d'Arabie Saoudite, via sa filiale Scopely, lorsqu'il a racheté la licence Pokémon Go pour 3,5 milliards de dollars.
C'est ça, oui.
Et où, par exemple, on a parlé très récemment du succès hallucinant de Roblox, qui a annoncé récemment avoir versé 1 milliard de dollars aux différents créateurs de jeux sur sa plateforme.
C'est ça.
Donc si eux, ils filent 1 milliard de dollars, essayez d'estimer combien ça leur rapporte à la base.
Alors, pour l'instant, ce qu'on sait de Roblox, c'est que ce n'est pas encore rentable.
Oui.
Même si j'avais lu ça, mais il y a un petit moment maintenant, il y a quelques mois, je pense. Mmh. Ce qui se disait avant par rapport à Roblox, c'est pour 1 dollar reçu, ils en dépensaient 3. Justement chez les créateurs de contenu, chez l'entretien des serveurs, ce que tu veux. Et aujourd'hui, on est plutôt à 1 dollar reçu pour 2 dépensés. Alors, ils se rapprochent tout doucement de quelque chose d'un poil plus rentable, mais ils perdent encore des valises de pognon.
Oui, mais alors, par contre, attention, les chiffres que donne Yuzu, ce sont des chiffres d'affaires.
Oui, voilà.
Ce qu'ils dépensent n'est pas pris en compte. C'est
le fait
ça
que ce soit rentable n'est pas envisagé.
Non, mais en tout cas, je disais plutôt, vu ce qu'ils versent, ça veut dire qu'en revenu direct via la consommation de Roblox, s'ils peuvent se permettre de filer 1 milliard aux créateurs, c'est derrière.
Oui, c'est qu'ils ont des revenus et des investisseurs.
Oui, voilà, parce que c'est pas vraiment. Parce que bon, un jour on parlera peut-être en long, en large, en travers de Roblox, mais c'est loin d'être des philanthropes.
Oui, puis il faut parler aussi. Ouais, mais si on parle de Roblox, il faut parler justice, c'est un peu compliqué.
Non.
Il faut parler prédation sur les mineurs. C'est un peu compliqué. Ouais. Hein, c'est...
Mais non.
Mais on peut.
Petite précision sur le rapport du coup qui traite du jeu vidéo. Ça mélange absolument tous les types de jeux vidéo. Donc on va parler des jeux qui sont vraiment, enfin, de ce qu'on appelle un peu les vrais, enfin les gros jeux. On va dire les jeux qui sont faits sur PC avec plusieurs centaines d'heures, mais également les applications mobiles qui peuvent être jouées dans le métro. Voilà.
Oui,
ça mélange absolument.
Oui, si.
Je précise juste.
Non, mais tu fais bien, effectivement. Oui, c'est le jeu vidéo dans tous les domaines. C'est pour ça que
le jeu vidéo, ça mélange tous les types de profils de consommateurs et consommatrices de jeux vidéo.
C'est pour ça qu'on atteint les 3,6 milliards de personnes concernées par le jeu vidéo, quelle que soit sa forme. Ouais. C'est ce qui est beaucoup plus que ce qu'on envisage si on parle de gens qui possèdent une console, de gens qui jouent sur PC tous les jours.
C'est pour ça. J'ai pas les chiffres sous les yeux exacts par rapport à la répartition, mais le fait que t'es 44%, t'as, pardon, 56% des joueurs qui disent moi je joue tous les jours et je dépense pas un sou, c'est l'immense majorité, c'est des joueurs mobiles en fait.
Il y avait un vieux.
Du coup, pour boucler sur les joueurs et joueuses mobiles, justement, la part, ils représentent 83% des joueurs et joueuses du monde, justement.
C'est ça.
Il y avait juste un vieux. Un espèce de vieux documentaire ou vieux rapport statistique qui disait en général que 10% des joueurs et des joueuses de jeux mobiles rapportaient 90% des gains du jeu.
Il y a toujours le même proportion 20%, 80%, enfin cette règle un petit peu immuable dans le capitalisme, parce qu'il fallait prononcer ce mot à un moment ou à un autre. mais oui, qui se retrouve aussi dans le jeu, qui se retrouve finalement.
Cette loi statistique de Pareto, mais du coup, elle était même amplifiée dans le jeu mobile où c'était vraiment une infime minorité de personnes qui rapportaient
bien moins que 20, montre les stats.
Parce que le terme qu'on utilise dans ce cas-là, c'était effectivement dans le terme du jeu mobile principalement, c'est le terme de baleine, qui est la personne qui va te rapporter beaucoup plus finalement et qui va justifier la présence de centaines voire de milliers de joueurs non payants à côté.
Pour des milliers de joueurs qui vont jouer gratuitement au jeu, tu vas en avoir une qui va lâcher littéralement des milliers de dollars.
C'est ça. Donc le principe de rétention, tout ce qui va avec le. Quand tu te retrouves à mettre des milliers de dollars par mois dans un jeu, à quel moment tu es.
Et il faut voir aussi que la rentabilité, du coup, elle est aussi différente parce que. Pour prendre un des plus gros jeux qui sort et qui est un ovni dans l'industrie du jeu vidéo, pour un GTA, vous avez vraiment beaucoup de production de jeux mobiles.
Oui.
Ah oui, complètement.
Mais du coup, la notion de rentabilité n'est pas la même. Donc, quand vous avez des personnes qui mettent des centaines d'euros dans un jeu mobile, dites-vous bien que c'est beaucoup plus que ce que pourra mettre quelqu'un qui a acheté son jeu à 60 euros.
En fait. Et encore, GTA, c'est un exemple particulier parce qu'il y a GTA Online qui est sur un modèle différent.
Puis qui vient jouer sur tous les tableaux.
Et on ne parle pas de la notion d'abonnement parce que je repense, là tu parles GTA et encore c'est des éléments récents. GTA 5 c'est récent finalement. Quand on pense à du WoW par exemple ou que tu avais de l'abonnement pour avoir le droit de jouer.
Ah, t'as toujours. Hein.
Et t'as toujours, oui, ouais, toujours, bien sûr. C'est encore
ils sont toujours là pour te prendre ton pognon en
vivant. Ils vont faire du revenu récurrent plus des bonus que tu peux acheter pour avoir du cosmétique en plus, un pet en plus, ou un truc comme ça, où là tes baleines vont rentrer en jeu. Et là, c'est jackpot si tu arrives à les trouver. Quoi.
Je vais juste finir pour laisser la main ensuite sur autre chose. Ça va. 21h30, vous avez fait pire, hein, le monsieur.
Oui. Non, mais t'inquiète. S'il faut meubler, je suis là. Tu me connais.
Moi, je me souviens encore.
Questions pour un quiz s'il faut.
Moi, je me souviens encore de. Je veux juste parler d'une petite conf rapide. Espèce d'escroc. 3 quarts d'heure.
Ben ouais. J'ai pris toute la place. Chacun son tour. Tu paieras les biens, on pourra en discuter.
Je voulais. Non. Oula. Non. Au bout d'un moment, les attaques ad hominem, c'est fini. Parmi les gens qui sont prêts à dépenser de l'argent pour du jeu vidéo, Newzoo a estimé que les dépenses par personne seraient en fait de 119 dollars. Par personne.
Et par an ?
Par an, pardon.
Et par an.
Par personne par an. Et sachant que ça inclut les jeux achetés plein pot.
Les jeux premium, comme on dit.
Ça inclut les abonnements.
D'accord.
Ça inclut les DLC. Ça inclut les microtransactions.
C'est moins cher qu'un abonnement de Game Pass.
Par an. Vrai. C'est ça.
Mais du coup, en fait, ils ont fait quoi ? Ils ont fait 3,6 milliards de joueurs envisagés, plus fois 119 pour.
Non. Ils ont pris 1,6 milliard de personnes parce que ils ont pris les 3,6. Ils ont fait 44% de ces gens-là
qui ont
déclaré être prêts à dépenser de l'argent pour jouer.
D'accord.
Et après, ils ont dit, ils ont vu. En fait, c'est assez simple. Ils ont vu les revenus. Et ils ont fait une simple division.
Oui, un produit en croix. Mais du coup, c'est effectivement ce que les gens sont prêts à dépenser. Mais ce qui n'est pas forcément ce que rapporte l'industrie, puisque la grande majorité des jeux mobiles fonctionnent sur un modèle aussi avec de la publicité, donc des revenus, même si les gens ne payent pas.
Oui, c'est pour ça que.
C'est aussi encore
je parle que de dépenses des joueurs.
On est bien d'accord. C'est une couche supplémentaire, mais qui n'a pas encore été.
Je parle de dépenses des joueurs. C'est-à-dire que c'est pour ça que ici, c'est vrai qu'on a plus tendance à parler de jeux premium, c'est-à-dire des gens qui achètent des jeux vidéo. Éventuellement, on a parlé du Game Pass, donc des abonnements. Comme Simon parlait, des abonnements comme ceux de WoW, etc. Et tout ça, en fait, il faut voir que c'est quelque chose de minoritaire dans le jeu vidéo, comme habitude, tout simplement. On est passé des années 80 où, gros, tu veux jouer, tu payes pour du jeu vidéo, à maintenant, la norme, c'est plutôt tu ne payes pas pour le jeu vidéo. Et si vraiment t'aimes ça, tu vas payer.
Ou si tu veux te libérer de certaines contraintes comme la publicité, comme toutes les incitations à payer sur les jeux mobiles, où tu payes pour pouvoir jouer plus vite, avec tout le principe de tu peux jouer dans tant de temps, tant de minutes, tant d'heures, et si tu veux raccourcir ce temps, tu payes. Donc c'est effectivement souvent En tout cas, à l'époque où moi je m'intéressais un minimum à ça, c'était souvent le modèle. Je sais pas à quel point ça a évolué, les modèles économiques des jeux mobiles. Mais j'ai l'impression que c'est toujours
comme ça.
Je voulais pas dire de bêtises à ce niveau-là, parce que je n'ai pas suivi depuis longtemps. Mais...
Et c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, du coup, j'ai un discours parallèle à ça, qui est plutôt sur le côté cosmétique d'un jeu. Par exemple, j'ai entendu, parce que de cours de récréation, de « si tu veux pas être un gars », c'est pas encore mon cas, j'ai de la chance, mais si tu veux pas être un gars, il faut que tu aies tel cosmétique dans Fortnite, il faut que tu aies tel truc dans tel jeu.
Oui, effectivement, c'est ces phénomènes.
D'autres mécanismes auprès des jeunes publics. Et c'était une de mes questions, d'ailleurs, si tu avais dans toutes les stats, si tu avais justement le profil des gens qui payent pour les jeux.
Non,
jeux
alors
payent, juste... pas forcément plein pot, mais sur tout ce qui va être DLC, cosmétiques, etc.
Alors, il n'y a pas de profil statistique sur les types de personnes. Alors si je dis peut-être une connerie, ils ont juste séparé hommes-femmes en chiffres, mais ils sont pas allés plus loin.
D'accord. Non, j'ai pas vu non plus.
Ils sont pas allés plus loin. Néanmoins,
et puis la plus difficile aussi à catégoriser finalement.
C'est plus difficile, notamment parce que acheter pour du jeu vidéo. Pour être clair, acheter du jeu vidéo quand t'es en Allemagne et acheter pour du jeu vidéo quand t'es au Laos, c'est pas la même chose.
Ah oui, non mais c'est sûr.
Non mais surtout, tu l'as dit tout à l'heure Romain, c'est une vitrine. Vous pensez bien que cette segmentation beaucoup plus précise, ces chiffres plus précis, s'ils l'ont, elle sera pas dans la vitrine, elle sera vendue.
Oui, c'est vrai.
Et c'est vrai que si tu prends le rapport qui est actuellement disponible, en fait, il suffit de le télécharger en donnant une adresse mail, en gros, et des infos bidons.
Et une entreprise bidon.
Et une entreprise bidon.
D'ailleurs, Julien, en fait, je t'annonce.
On a donné ton nom.
Tu vas recevoir 2-3 trucs.
Voilà.
J'ai l'habitude.
Et du coup, oui, donc ce document, en fait, si tu le parcours, tu vois qu'il y a des endroits, en fait, où il n'y a pas les chiffres.
Ouais.
Parce qu'ils te disent que ça fait partie de l'offre premium de Newzoo, qui effectivement, comme tu le rappelais, donc, a autre chose encore à proposer. Donc ça, c'est la vitrine gratuite. Et dans même la vitrine gratuite, tu peux avoir des informations plus précises si tu payes. Donc même autour du jeu vidéo, et dans l'analyse du jeu vidéo, tu as des gens qui font brasser du pognon autour du jeu vidéo aussi.
Oui, bien évidemment.
Au-delà de la création simple.
Oui, enfin, on a dit que c'était un marché à quasiment 200 milliards.
Oui, mais là, tu parles des gens qui payent. qui payent pour des jeux. Là, c'est des gens qui s'intéressent à l'analyse autour.
Ah non, là, c'est un marché en termes de revenus qui a 200 milliards, donc il serait con de pas gratter des centimes. Bettina, je voulais te poser une question par rapport aux jeux que tu peux recevoir, notamment pour Indie Game Lyon, la proportion de jeux qui sont sur mobile, parce que je me souviens notamment d'un développeur qui s'appelle Mana, si je dis pas de bêtises.
Ouais.
Mais c'est, dans mon souvenir, c'est un des seuls que j'avais vu sur du mobile. Ouais.
C'est un des rares, c'est pas du tout la majorité des jeux qu'on reçoit. En général, ils développent plutôt sur PC. Des jeux mobiles, il n'y en a pas beaucoup. Je réfléchis, il y en a peut-être un ou deux par édition. Ouais. Mm-hmm. Ouais.
Et en termes de. Et toi, en termes de connaissances par rapport à des studios à Lyon, des studios en fait vont plus s'orienter, j'imagine, vers le PC en termes de facilité. Mais est-ce que tu sais si en proportion il y en a beaucoup qui vont vers le mobile?
Non, je sais pas. Du côté des très très indés, c'est plus facile. T'as plus de facilité à développer pour PC. Je pense que c'est surtout pour ça. Après, non, j'ai pas rien de particulier en tête.
Est-ce que leur cible est pas aussi sur PC? Au final, assez ultra indé.
Oui, 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 complètement.
Parce que il faut voir notamment que je me souviens notamment d'avoir discuté avec des gens de Old School Games qui faisaient des choses aussi pour mobile, des gens de la boîte de Nacon qui fait surtout des jeux de voiture, qui fait les test drive. Je les appelle
Kiloton.
Kiloton.
Oui.
KT faisait aussi des jeux, des versions mobiles de leurs jeux aussi. Oui. Et ils disaient qu'ils étaient plutôt satisfaits de combien ça leur apportait par rapport au premium, etc.
Et par rapport au boulot nécessaire.
Voilà. Alors après, je connais pas, en tout cas sur Lyon, je connais pas des studios spécialisés sur du mobile, mais je sais qu'il y a quand même certains
qui vont
aller dans cette direction.
Il y a Million Victories, avec son jeu Million Lords. On n'est pas sur de l'indépendant. Hein. Et puis j'ai pas la mémoire des noms, j'en ai d'autres en tête mais j'ai plus les noms.
Donc
Bah, ça reste une activité, effectivement, même en France, assez... Ouais. Est-ce que tu dirais que c'est, de ce que tu sais, les mêmes types de proportions en termes de... On disait, c'est 55% de la...
Moi,
la
de
valeur,
ce que je vois, des candidats à Indiegame Lyon, non, pas du tout.
Oui,
non,
pas dans ce cadre-là. Ouais. Okay.
Non, non.
Le mobile vient avec son lot de contraintes également. Enfin, on sait par exemple que Steam prend des commissions sur les ventes, mais il se trouve que l'Apple Store et le Play Store aussi.
Ouais.
Donc, pour un ultra indépendant, c'est pas forcément intéressant d'aller se mettre sur une plateforme où les 20 téléchargements qu'il va avoir vont être ponctionnés de 30%.
Ouais, Tim s'en est beaucoup plein d'ailleurs.
Tim Sweeney. Oui. Mais on aurait pu reparler de la... De Unity avec son très bon plan à une époque de te facturer les installations, ça aussi ça aurait pu être rigolo.
Génie.
Ouais.
Ah oui, le coup de génie, oui. Richie Tiello, il est plus là pour en parler, mais c'est un coup de génie.
C'est ton
idole toujours.
Ah bah avec Tim, avec Bobby, enfin bon.
Oui.
il y en a d'autres.
Le Boys Club.
On dit les copains. Romain, est-ce que tu avais vu la partie en fait de l'analyse et des chiffres qui parlaient notamment d'un truc que j'avais trouvé intéressant, qui était les dates de sortie des jeux dans l'année, la répartition dans l'année, et aussi en fait toute la partie sur les early access,
ou la durée des early access
et le succès qui va avec selon la durée plus ou moins longue
Alors effectivement, tu m'as dit de regarder cette partie-là.
Oui, complètement. Alors, c'est moi le chef. Et ne m'oblige pas à redire pourquoi. M'oblige pas.
Finis ta phrase.
C'est de faire perdre du temps à cette émission, s'il vous plaît.
Oh, tout de suite, c'est pas d'autres gens. Oui, donc effectivement, il y a eu une partie de ce rapport qui s'intéresse effectivement aux dates de sortie. C'est une partie qui s'appelle Modernizing Release Windows, donc vraiment façon de moderniser les fenêtres de lancement des jeux en analysant un petit peu sur les dernières années. Alors je crois que c'est entre 2021 et 2024, je crois, les chiffres.
Après la grosse période de Covid, en fait.
Et jusqu'à il y a peu de temps, finalement, pour analyser un petit peu les jeux. Par rapport à la date à laquelle ils sont sortis et les résultats qu'ils ont fait par rapport à ça. Et effectivement, un des premiers, vraiment la première conclusion qu'ils en tirent, et le premier chiffre que tu peux trouver dans l'analyse, c'est que les sorties sur la première moitié de l'année, donc en gros de février à mai, parce que le mois de janvier en général est un mois relativement calme vu que ça s'est vachement énervé en décembre, et mai parce que finalement juin c'est une période aussi relativement calme parce que c'est déjà un peu les vacances et que c'est le Summer Game Fest, c'est ce genre de truc.
Oui, il y a moins de grosses sorties à cette époque-là. Ouais.
Mais effectivement, donc sur la période février-mai, ils ont constaté, d'après leurs chiffres, que les jeux qui sortent font des résultats 34% de mieux que ceux qui sortent sur la période de la deuxième moitié de l'année, c'est-à-dire globalement août-novembre, pour les raisons que exactement la même logique que ce que j'ai dit juste avant.
Alors que donc, c'est intéressant d'avoir ça, alors que notamment les gros blockbusters de l'année, les Call of Duty, les FIFA, tout ça, ça sort fin d'année. Deuxième moitié d'année.
Ouais. Voilà, souvent aux alentours de novembre pour jouer autour des achats de Noël.
C'est ça.
Mais voilà, ils font malgré tout aussi le compte. C'est-à-dire que c'est un chiffre qu'ils ont un petit peu analysé par rapport au nombre aussi de sorties. Et alors, ils ont aussi limité leur scope, leur analyse, aux jeux, on va dire, solo, globalement. Donc déjà aussi ça limite un peu on va dire pas l'intérêt mais les sujets quoi. Donc voilà, c'est ça effectivement, entre janvier 2021 et décembre 2024. Ils parlent uniquement des dates de sortie initiales, c'est-à-dire que les portages par exemple d'un jeu sur une autre plateforme plus tard ne sont pas pris en compte. Okay. Donc ça aussi ça peut avoir de l'importance, notamment quand on parle des jeux Sony qui sortaient d'abord en exclu sur leur console puis ensuite sur PC et qui ont eu des très bons résultats dans certains cas. Ils ont aussi...
J'avais lu à ce propos, les lancements simultanés multiplateformes donnent une répartition plus équilibrée des joueurs et des joueuses entre les plateformes, et les lancements tardif sur une plateforme secondaire, eux, donnent nettement moins en termes d'acquisition sur cette deuxième plateforme.
Sur les
plateforme.
Autres plateformes, voilà. Exactement. Ouais. Souvent, quand effectivement un jeu a été solo, enfin, exclusivité sur une plateforme, marche moins sur les autres. Est-ce que, enfin, après, c'est très difficile d'envisager, est-ce qu'il aurait mieux marché de façon globale s'il était sorti partout en même temps ? C'est toujours un peu difficile parce qu'on n'a pas d'éléments de comparaison, on ne peut pas revenir dessus.
C'était beaucoup la stratégie dont on avait parlé sur le Game Pass du bien fameux sûr. Day One, où il disait, bah, quand ça sort, peu importe, je sais, ça sort sur Xbox, ça sera dans l'abonnement, vous pouvez y jouer maintenant. Quoi.
Et d'ailleurs, tu parles du Game Pass, c'est effectivement aussi une des limites de l'analyse, où ils disent qu'ils ont exclu les titres Xbox disponibles sur le Game Pass dans les 3 premiers mois de la sortie. Ils sont exclus parce que pour eux, c'était difficile d'en tirer des chiffres concrets, enfin, ou en tout cas utilisables, parce que le Game Pass venait un petit peu brouiller tout ça.
Et puis parce que Microsoft, pour l'instant, est très frileux sur les chiffres du Game Pass.
Oui, on sait combien il y a d'abonnés, on sait certaines choses, mais on sait rarement les chiffres exacts.
Non, pas par jeu.
Non, bien sûr, on sait rarement les utilisations, mais je pense que ça fait partie du deal de ne pas en parler, ouais. Tout simplement. De combien est-ce qu'ils ont touché pour être dans le Game Pass, dans le cas de jeux et tiers, et aussi derrière, voilà, de tout ça. Donc voilà, c'est malgré tout, donc, malgré toutes ces limites, donc ils ont trouvé effectivement cette différence entre la première moitié de l'année et la deuxième moitié de l'année, où on constate effectivement que les jeux AAA, alors en plus de ça, dans leur analyse, on est bien obligé forcément de sortir un peu certains titres qui ont complètement surperformé par rapport à d'autres. Sur la première moitié de l'année, on peut penser à Elden Ring, qui est sorti en février, on peut penser à Hogwarts Legacy,
pareil,
qui a aussi un peu tout pété, qui est sorti en février. On peut penser, si on parle dans l'autre sens, on peut penser à Baldur's Gate qui vient complètement impacter les ventes sur le mois d'août, parce qu'à sa sortie en version finale, il est sorti au mois d'août. Mmh. Bon, il était sorti en Early Access 3 ans avant, mais ça, c'est un autre sujet. Mais voilà, si tu enlèves effectivement Baldur, si tu enlèves Elden Ring, si tu enlèves Hogwarts Legacy et Elden Ring, c'est 55% de l'activité sur le mois de février.
Oui.
Si tu enlèves cela, finalement, le mois de février, lissé sur les années, c'est peu.
Je pense que septembre 2025, analyser les choses, si tu enlèves Silksong, voilà quoi.
Ça va pas forcément être la même.
Encore une fois, hein, c'est la même loi statistique. Il y a 20% des produits qui vont s'accaparer 80% de l'attention.
Là, ouais. On est plus sur 1% qui prend tout quoi.
Et nouvelle limite qui rajoute, après avoir montré un petit peu ces chiffres, il parle par exemple d'un énorme succès de l'année dernière, Black Myth Wukong, qui lui est sorti en août. Mais qui n'a pas été pris en compte parce que les chiffres de vente spécifiquement en Chine, visiblement, ont été difficiles à mettre dans leur rapport. Ils vont pas beaucoup plus loin sur l'explication, mais en tout cas, ils les ont sortis et donc, du coup, ils ne font pas partie des chiffres d'août. Donc voilà, ça aussi, alors que l'impact doit être assez massif parce qu'ils en ont vendu quelques-uns quand même.
Une explication que Xavier pourrait justifier.
Écoutez, j'ai pas eu de message du parti, dans le doute, je pense qu'ils ont raison.
Donc t'as pas d'avis ?
Non, dans le doute, ils ont raison.
Non, t'as pas d'avis parce qu'on t'a pas donné, oui. T'as pas dit quoi dire.
De toute façon, j'ai pas d'avis, point.
Comment va Jack?
Laissez-moi tranquille.
Exactement. Malgré toutes ces limites, ce que j'ai évoqué quand même depuis le début, ils en tirent la conclusion qu'on est sur un 34% de vente et plus précisément que les jeux sortis sur la période août-novembre ont performé à 34% moins bien que les jeux sortis sur la première moitié de l'année. J'ai envie de dire, est-ce qu'on n'a pas passé suffisamment de temps à parler des limites et des exclusions des chiffres pour finalement considérer que ces chiffres ils sont assez difficiles à analyser en tant que tels. Enfin, il y a quand même un peu...
Est-ce que ce ne serait pas justement un biais, entre guillemets, simpliste, comme le disait Julien, en disant, on vous donne un conseil gratos. Sortez-le en début d'année, mais si vous voulez une vraie analyse, il faut payer un peu plus quoi.
Alors par contre, effectivement, on peut quand même en tirer 2-3 trucs. Il compte 22 titres. Alors, je ne sais plus exactement où est le... Quel titre ils ont fait rentrer dans la liste. Je pense qu'il y avait quand même un minimum aussi de réussite, enfin un minimum de valeur. Mais globalement, eux, ils comptaient 22 titres en février, 14 en mars, alors que seulement 7 en avril, 7 en mai, 8 en juin, 7 en juillet, donc des périodes beaucoup plus calmes en grosses sorties. et en termes de valeur également. Alors que sur la fin de l'année, entre août et novembre, on est quasiment à 20, entre 12 et 20 jeux par mois, si tu veux. Donc il y a beaucoup plus en fait, de jeux qui sortent sur cette période-là, avec un revenu moyen moins élevé. C'est-à-dire que techniquement, leur discours, c'est aussi de dire que les jeux se vampirisent les uns avec les autres. Que c'est une question de, évidemment de scope, mais enfin
de concurrence,
de concurrence, mais également de concurrence en termes de nombre. Si tu arrives en même temps qu'une quinzaine d'autres jeux, c'est pas la même chose que tu arrives en même temps que cinq autres jeux. Et c'est pour ça que une des conclusions, d'ailleurs, ça avait été le titre d'un article, si j'ai pas de bêtises, de Game Developer, qui disait que voilà, le mois de juin était complètement sous-estimé par les gens, enfin par les éditeurs, et que c'est un mois qui devrait, auquel ils devraient un peu plus penser. Pour sortir des jeux, parce que c'est un mois qui est vide en termes de grosses sorties.
Mais c'est un mois qui est plein d'examens pour les étudiants qui ont un petit pouvoir d'achat quand même.
Alors, c'est une bonne question.
En France ou partout dans le monde?
Ouais.
Je pense une bonne partie du monde quand même.
C'est une bonne question aussi.
Ah, de ce que je connais de l'Europe en tout cas.
Ouais, c'est vrai.
Mais voilà, donc c'est toujours un peu difficile. Tu as aussi bah, forcément les jeux multi qui vont être considérés autrement. Parce que la concurrence en termes de jeux multi va être gérée autrement que dans les jeux solo. Ouais. Si tu as beaucoup de jeux multi qui sortent en même temps, il y en a souvent qu'un seul qui va sortir un poil la tête de l'eau et pas toujours d'ailleurs tout survivre. Ça aussi, on en a déjà parlé, mais survivre pour un jeu multi, c'est pas toujours évident.
Après, comme dit Simon, il y a aussi des événements extra-industrie qui sont importants. Tu disais tout à l'heure qu'en janvier, il n'y avait pas beaucoup de sorties.
Mais il n'y a plus de sous.
Mais c'est très simple. Mais non. Mais c'est déjà, il y a Noël, mais c'est aussi une période de soldes.
Oui, bien sûr.
L'attention n'est pas sur l'industrie du jeu vidéo.
Et de la même façon, c'est comme tu le dis, tu as les soldes de Steam qui sont assez régulières, qui tombent fin décembre, début janvier. Tu as la période
les
de
gens,
juin.
Ils ont déjà fait
période...
le plein, peut-être aussi.
Oui, t'as ça aussi. T'as effectivement t'as, des moments qui
t'as,
sont.
T'as
8
périodes de soldes dans l'année, je crois, un truc comme ça.
Exactement, je sais plus.
C'est fou. Après, si tu veux chercher plus loin, c'est aussi aux États-Unis des périodes fiscales différentes. Et aussi, tu te dis, ils n'ont pas envie de vendre, tout du moins de lancer un jeu parce que ça va rentrer dans la période fiscale précédente, etc. Donc pour les investisseurs, ça ne va pas plaire.
La fin de l'année fiscale, si je ne dis pas de bêtises, c'est fin
avril. Majoritairement, c'est fin mars.
Avril, hein.
C'est fin mars,
début avril, c'est ça. Donc c'est pour ça que tu vas avoir des jeux qui vont sortir en mars. Genre, hop, il faut boucler l'année fiscale.
Février-mars pour avoir le temps de bien les vendre, pour que ça rentre dans les bons chiffres.
C'est pour ça que tu n'as pas grand chose en janvier, mais souvent, février-mars, c'est des périodes, en tout cas chez les gros, qui sont assez chargées parce qu'ils veulent donner un bon truc. Parce que, en gros, début avril, ils sont obligés de parler à leurs actionnaires en disant non, mais on a fait ça. Hein.
Regardez, ça s'est bien passé.
On a sorti 10 super jeux. Regardez pas les chiffres.
Ils sont sortis. Hein. En 2026, j'étais à 6. Ils sortent quel mois?
Je sais plus, j'étais resté
avec
à octobre, février, j'en sais plus.
Avec du retard.
Février avec du retard.
Quand il sort.
Février plus plus.
Ouais, c'est ça. Et vite fait, donc tu avais évoqué aussi les jeux en early access. Donc ces jeux qui sortent avant d'être finis officiellement et que tu peux quand même déjà les acheter et dans certains cas communiquer un minimum avec les développeurs pour parfois donner ton avis ou orienter.
Qui sont devenus avec le temps d'ailleurs une pratique commune pour les jeux premium.
Bien sûr, bien sûr.
Parce que c'était il y a 10 ans, c'était beaucoup moins le cas.
Bien sûr. Ouais. Et effectivement, on l'a vu avec. Tu as quelques énormes succès au milieu de tout ça. Tu as les Baldur's Gate 3, tu as Sons of the Forest, notamment, enfin, dans les derniers. Hein,
tu parles pas Star vraiment... Citizen? Je suis déçu.
Non. Non.
On a dit qu'on parlait de jeux vidéo et pas de scam.
Voilà, on parlait de jeux auxquels on peut jouer et tout, et qui, tu sais, qui existent. Malgré tout, effectivement, donc, leur analyse par rapport à ça, tu vas beaucoup plus retenir et attirer de joueurs si tu as une période d'early access, en tout cas d'après les chiffres qu'ils ont relevés, de 4 à 6 mois, que si tu dépasses les 9 mois, 10 mois, etc. Avec... En plus de ça, dans leurs chiffres, toi, qu'il y a deux jeux qui viennent un petit peu casser le modèle, puisque tu as la valeur qui remonte entre 22 et 24 mois, donc quasiment 2 ans après la sortie. Et tu as notamment V Rising, le jeu de vampire, là, et Ready or Not, qui sont des jeux qui sont sortis en Early Access et qui sont sortis en version 1.0 2 ans après, et qui ont, eux, réussi à remonter encore, à réaugmenter encore leur base de joueurs et 2 ans après la sortie.
Et comment on gère des jeux comme Ark? Qui sont Toujours en période d'early, je crois.
Le bouton refund sur Steam pour récupérer ton pognon.
Parce que c'est ça, hein, il me semble qu'il est encore en. Il sort d'une alors que Ark est encore en.
Non, d'une, c'est pas. D'une, c'est Funcom.
Ah, pardon, excuse-moi. Je confonds avec Conan Exiles, pardon.
Bah, Conan Exiles aussi, c'est Funcom.
Oui, Funcom, voilà, je confonds. Donc Conan Exiles avec.
Avec Ark.
Bref.
Non, Ark, ils ont sorti Ark 2. Ark, c'est un arc narratif différent.
Ok.
Si tu m'excuses, cette facilité, mais bref.
Pire.
Oui, je sais, c'est pour ça que je me permets. Bref, donc voilà, t'as aussi effectivement cette analyse un petit peu des durées de, on va dire, optimales d'Early Access, qui sont elles aussi entrecoupées et entretachées, finalement, d'exceptions, d'événements et de jeux qui viennent un petit peu casser le modèle. On pense par exemple à Dave the Diver, qui a surperformé alors qu'il est sorti en version finale beaucoup plus tard. Bref, tu as quelques jeux comme ça qui viennent un peu casser le... On va dire les courbes qu'ils ont présentées, donc c'est toujours un peu difficile aussi. Là, j'ai plus de mal à valider et à trouver intéressante l'analyse par succès suivant le nombre de temps d'Early Access. Mmh. On a des exemples de jeux qui sont sortis effectivement beaucoup plus... Enfin, au bout d'un certain temps d'Early Access, qui ont très très bien marché du début à la fin. On a un exemple d'un jeu qui est toujours en Early Access, puis qui est sorti, on va dire, correctement à un moment, puis qui a explosé depuis avec Project Zomboid, qui a eu un Early Access lancé en 2013, correct, pas trop trop mal sorti, mais alors rien à voir avec ce qu'il est devenu à la sortie de je sais plus quelle version, qui rajoutait le mode multijoueur.
La 40 a été une première explosion, et en fait, à chaque fois qu'ils sortent une build, la build est d'abord accessible en solo uniquement. Donc c'est vraiment les aficionados qui vont jouer à cette build-là en solo. Et à chaque fois qu'ils activent le mode multijoueur, en fait, il y a un pic de vente et un pic de personnes qui jouent. C'est affolant à chaque fois. C'est vraiment pour le coup, c'est un jeu qui sortira probablement jamais de l'early access. Mais après tout, le marché leur donne raison.
Oui, ça fonctionne. Donc c'est toujours un peu compliqué. J'ai plus de mal avec ça, même si je comprends la réticence. Je connais des gens qui, effectivement, c'est vraiment cette réticence envers les jeux.
Sur l'early access,
oui. Pas vouloir acheter un jeu tant qu'il n'est pas terminé. Il va pas te faire mal. Mais tant qu'il n'est pas terminé ou tant que tu risques de ne pas être finalement satisfait par ce qui va être rajouté dans le contenu, tu as aussi un peu évidemment ce risque. Tant que le jeu n'est pas terminé, tu ne sais pas dans quelle direction ça va aller. On a déjà vu des jeux qui plaisait plus ou moins aux gens au départ, et puis qui les ajouts successifs ont finalement divisé les communautés. Ça a existé aussi. Donc, j'ai plus de mal à en voir une règle, quelque chose à suivre, ou en tout cas une information utile, parce que chaque histoire d'Early Access est très différente, même s'il ne faut pas oublier effectivement les Early Access mort-nés, ou en tout cas abandonnés au fur et à mesure,
qui se retrouvent délistés d'ailleurs.
Aussi, qui ont vraiment un impact sur l'attitude par rapport à ça. Parallèle que je fais avec les jeux Kickstarter. Des jeux qui sont lancés sur Kickstarter, qui ont rapporté énormément de pognon, qui finalement n'ont pas donné lieu à un jeu qui sort, ou à des jeux beaucoup moins bien que ce qui avait été vendu ou promis, qui ont beaucoup impacté le financement via Kickstarter des jeux vidéo à une époque.
Moi, je m'étais noté un truc dans la partie tendance et stratégie, un truc qui me fait pas plaisir personnellement. C'est à propos des remakes et des remasters. Ils disent que ça permet de raviver des propriétés intellectuelles classiques tout en réduisant les risques et en profitant de la nostalgie. Ce qui veut dire qu'on va continuer de manger du remake et du remaster à toutes les sauces. Et moi, ça me rend assez triste.
Alors, je suis pas étonné, parce qu'effectivement, ça marche.
Ben oui.
En vrai, ça fonctionne. Non, et dans certains... en fait, tu le vois même, je le vois, même les gens qui jouent toujours au même jeu, je vois les communautés qui jouent à des jeux, à des séries de jeux. Tu lances un Resident Evil, t'as énormément de gens qui vont jouer à toutes les versions possibles, imaginables des Resident Evil, que ce soit les remakes ou pas. Tu as des domaines comme ça qui sont des jeux de, tu sais, des jeux doudou, des jeux d'enfance que t'es toujours content de revoir, que t'es toujours content de jouer.
Bien sûr,
il y a des trucs qui vont fonctionner comme ça, et je pense que ça joue beaucoup
là-dessus. Moi, ça me rend triste
pour la créativité,
pour le
renouvellement.
Exactement, parce que ces jeux étaient très bien quand ils sont sortis. Pourquoi essayer d'aller les déterrer, d'en refaire quelque chose de nouveau ?
Sûrement parce qu'il y a des gens bizarres qui vont se dire, tiens, il y a des nouveaux Tomb Raider, si je faisais un stream dessus, quoi.
Ça, tu vois, c'était une attaque personnelle.
Alors, on en parlera avec François Scadol. Non, qui s'est fait manger sa voix par une IA.
Oui, voilà.
Non, pour en parler.
J'ai pas assez de temps pour insulter le studio.
Après, pour être sérieux, là, évidemment, on parle de revenus et malheureusement, c'est une tendance lourde qui vient déjà de Hollywood là-dessus. Ouais. Sur les remakes, sur le jeu pompe les licences, etc.
Je fais la différence entre les remakes et les remasters qui reprennent le jeu mais qui le modifient, enfin qui changent complètement la façon dont il est construit et ceux qui simplement changent les textures.
Ouais.
Tu veux qu'on compare les Jurassic Park, c'est ça?
Non. Parce que je parlais pas de film, je parlais de jeu.
Non,
mais tu as des jeux qui méritaient et qui ont proposé quelque chose de mieux et d'intéressant dans le fait de les refaire complètement dans un remake, alors que tu as effectivement des remasters fainéants et qui ne font que titiller la vague de la nostalgie chez ceux qui nous ont connus.
C'est sûr.
Ou les rendre simplement des fois aussi. Tu as aussi parce que malgré tout, tu parles du nombre de joueurs qui existent. C'est un nombre de joueurs qui se renouvelle et tu as des nouveaux joueurs qui arrivent tous les jours. Permettre à des gens qui n'ont pas connu les années 90, les années 2000, les années 2010, de découvrir des licences dans des conditions, on va dire, jouables sur les machines d'aujourd'hui, je peux comprendre aussi la logique qui va avec.
Bah, je comprends la logique, mais...
Je ne dis pas que ça justifie qu'on s'en fasse autant envahir et que ça fonctionne à ce point, mais je comprends l'envie aussi parfois la possibilité de permettre à des gens qui n'ont pas connu ces moments-là, quand les jeux sont sortis réellement, d'apprécier certains trucs.
Il y a quand même une distinction entre est-ce qu'il y a une vraie volonté d'améliorer techniquement l'objet en gardant la nostalgie et simplement l'idée de faire du beurre en fait
purement commercial.
Et typiquement, je plaide coupable là-dessus, mais les Tomb Raider, ils ont mis un skin par-dessus. Mais d'un côté, j'étais très content de manger aussi le
bien
côté tank de Lara Croft. J'étais content de le retrouver. Et le fait que ce soit plus joli, ça m'a permis surtout de le faire découvrir de manière plus agréable. De le refaire découvrir de manière plus agréable. Bon, après, ça reste très paresseux.
Après, t'as c'est surtout... Enfin, j'imagine ce sur quoi comptait... Le rapport Yuzu, en tout cas les conclusions du rapport Yuzu, c'est l'argent garanti en fait, tout simplement.
Oui,
que tu fasses un remake, que tu fasses un remaster, on te dit la prise de risque elle est moindre et ça te rapporte de l'argent. Si ça se plante, à la limite c'est pas si grave.
T'as pas forcément mis énormément de moyens dedans, et puis au pire, même si ça marche,
tant mieux.
Regarde, non mais regarde dans le remake d'Oblivion, qui a fait le remake d'Oblivion?
On s'en fout. Ça fait de l'argent.
Le studio français Virtuos, qui a beaucoup bossé sur le remake, sur le remaster d'Oblivion. Ouais. Et puis après ils avaient fini leur boulot. Ils se sont fait virer.
Oui,
on finira là-dessus.
Ouais.
Voilà.
C'est ça. Donc
parallèle avec la Merzone.
Voilà. Donc,
le remaster de la Merzone. Microïds Paris qui ferme. Bref.
Ouais.
Voilà. Donc mercredi Blue Contou. c'était mercredi dernier. Bah le 18 il y a la redite.
Le 18, c'est jeudi prochain. C'est
le jeudi
émission.
Prochain il y a la redite.
C'est parti. Elle va être bien la prochaine émission.
Très bien. Merci Bettina.
Merci.
Merci Julien.
Avec plaisir.
Merci Simon pour les cascades.
Merci,
merci Romain.
Merci Xavier.
Et
merci,
à Radio Canu pour l'accueil, pour Presse F5 pour l'hébergement. Et on vous dit à jeudi prochain.
Des
bisous.
Bye bye.
Salut. Ciao.